From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Dieter F. Uchtdorf,
deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you this afternoon.
Nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième session de la 178e conférence d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, Frère Uchtdorf, de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et de notre bénédiction aux membres de l'Église et à nombreux amis de partout qui suivent le déroulement de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mark Wilberg et Ed Thompson avec Bonnie Goodleaf et Margaret Linda, alors le chœur va ouvrir cette session en chantant « Vers Sion, cité promise ». Frère Paul Piper, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our Father in heaven,
Père céleste, nous baissons la tête, reconnaissant, profondément reconnaissant aujourd'hui, reconnaissant de l'apparition de ton Fils Jésus-Christ, le grand Jéhovah, qui est venu rétablir la vérité et la prêtrise, les ordonnances nécessaires sur la terre, afin que dans ces derniers jours, maintenant où nous voyons la terre commencer à trembler spirituellement et physiquement autour de nous, nous sachions que nous n'avons pas besoin d'avoir la peur au cœur, car avec les ordonnances, le pouvoir, nous avons besoin dans notre foyer et notre famille, et dans les pieux de Sion, ont été rétablis et préparés par toi, notre Père céleste aimant, qui nous a préparé une fuite. Nous te remercions de ces grandes bénédictions, des bénédictions de cette conférence, pour la manière dont notre cœur a été touché. Et beaucoup de cœurs ont été guéris et nous avons été fortifiés. Veuille continuer de bénir avec le même esprit doux. Bénis ceux qui vont faire des discours, chanter, afin que nous allons continuer de recevoir ces messages dont nous avons tant besoin, individuellement et collectivement, en tant qu'Église, en tant que peuple. Nous qui faisons partie de cette grande famille humaine, nous, tes fils et tes filles, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh,
The choir has sung.
Le chœur vient de chanter nos pas guidés par la foi. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Poké Packer du Collège des Douze Apôtres, après lequel nous entendrons Russell M. Nelson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi par William D. Oswald, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'École du Dimanche. Frère Packer.
C'est mon intention de montrer que lorsque nous vivons dans les temps difficiles, nous pouvons toujours être préparés dans la direction de la sécurité. Nous vivons dans les temps difficiles que l'apôtre Paul a prophétisé pour les derniers jours. Si nous voulons être en sécurité individuellement, en tant que famille, en tant qu'Église, ce sera en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Le 24 juillet 1849, les saints étaient dans la vallée depuis 2 ans, jour pour jour. Ils étaient enfin à l'abri des émeutiers et des persécutions subies pendant des années. Cela méritait d'être fêté. Peu d'années auparavant, dans des conditions terribles, Joseph Smith, le prophète, avait souffert pendant des mois dans la prison de Liberty, pendant que les émeutiers chassaient les saints de leur maison. Les mots « liberty » et « prison » ne vont pas bien ensemble. Joseph s'était écrié, « Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre ta cachette ? Combien de temps retiendras-tu ta main ? Combien de temps ton œil, oui, ton œil pur, contemplera-t-il des cieux éternels les injustices commises à l'égard de ton peuple et de tes serviteurs, et ton oreille sera-t-elle pénétrée de leurs cris ? » Le prophète Joseph Smith avait prié le Seigneur, qui avait dit aux saints de demander au juge, au gouverneur, puis au président, de redresser les torts. Leurs appels aux juges n'ont rien donné. Durant sa vie, Joseph Smith a comparu en justice plus de 200 fois sous toutes sortes de fausses accusations. Il n'a jamais été condamné. Quand les saints ont fait appel au gouverneur Boggs du Missouri, celui-ci a déclaré « Les Mormons doivent être traités comme des ennemis et doivent être exterminés ou chassés de l'État si c'est nécessaire pour le bien public. » Cela a déclenché une brutalité, une perversité sans nom. Les saints ont fait appel au président des États-Unis, Martin Van Buren, qui leur a dit « Votre cause est juste, mais je ne peux rien faire pour vous. » Je vais lire les derniers paragraphes de leur troisième appel, adressé au Congrès des États-Unis. Les afflictions de vos pétitionnaires sont déjà écrasantes, trop importantes pour que des êtres humains, des citoyens américains les subissent sans plainte. Depuis de nombreuses années, nous gémissons sous la main de fer de la tyrannie et de l'oppression. Nos biens estimés à 2 millions de dollars ont été volés. Nous avons été chassés comme des bêtes sauvages. Nous avons vu nos pères âgés qui avaient combattu pendant la guerre d'indépendance, ainsi que nos enfants innocents massacrés par nos persécuteurs. Nous avons vu les belles filles de citoyens américains insultées et violées de la manière la plus inhumaine. Et finalement, nous avons vu 1 500 âmes, hommes, femmes et enfants, chassés par les armes durant les rigueurs de l'hiver de leur foyer sacré vers un pays étranger, sans ressources ni protection. Dans une situation aussi affligeante, nous tendons nos mains implorantes vers les plus hauts conseils de notre pays et faisons humblement appel aux sénateurs et aux représentants illustres d'un peuple grand et libre pour qu'ils nous assurent réparation et protection. Écoutez, oh écoutez la voix suppliante de nombreux milliers de citoyens américains qui gémissent actuellement en exil. Écoutez, oh, écoutez les pleurs et les lamentations amères de veuves et d'orphelins dont les maris et les pères ont été cruellement martyrisés dans ce pays, survolé par l'aigle fier. Qu'ils ne soient pas inscrits dans les archives des pays que des exilés, vous en demandez protection et réparation en vain. Vous avez le pouvoir de nous sauver, avec nos femmes et nos enfants, de la répétition des scènes sanglantes du Missouri, et de soulager ainsi les peurs d'un peuple persécuté et blessé. Et vos pétitionnaires en seront éternellement reconnaissants. Il n'y a pas eu de pitié, leur demande a été refusée. En 1844, alors qu'ils étaient sous la protection déclarée de Thomas Ford, gouverneur d'Illinois, Joseph Smith, le prophète, et son frère Hiram ont été abattus à la prison de Carthage. Il n'est pas possible d'exprimer par des mots la brutalité et les souffrances que les saints ont subies. Alors, en ce 24 juillet 1849, enfin à l'abri des émeutiers, ils se préparaient à fêter ce jour. Tout ce que les saints possédaient avait traversé des milliers de kilomètres de désert dans des charrettes à bras ou des chariots bâchés. Ce n'est que 20 ans plus tard que le chemin de fer allait arriver jusqu'à Salt Lake City. N'ayant presque rien, ils ont décidé que la fête serait une grande expression de leurs sentiments. Ils ont construit un toit de branchage à Temple Square. Ils ont érigé un mât de plus de 30 mètres de haut. Ils ont confectionné un immense drapeau national de 20 mètres de long et l'ont déployé en haut du mât de la liberté. Il peut sembler étonnant, presque incroyable, que pour thème de cette première grande fête, ils aient choisi le patriotisme et la loyauté au gouvernement qui les avait rejetés et qui ne les avait pas aidés. Si vous comprenez pourquoi, vous comprenez le pouvoir des enseignements du Christ. Au son de leur fanfare, Brigham Young a mené un grand défilé jusqu'à Temple Square. Il était suivi des 12 apôtres et des 70. Venaient ensuite 24 jeunes gens, pantalons blancs, veste noire, une écharpe blanche sur l'épaule droite, une couronne sur la tête, et une épée dans son fourreau au côté gauche. Et surtout, chacun avait dans la main droite une copie de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution des États-Unis. La Déclaration d'indépendance a été lue par l'un des jeunes gens. Venaient ensuite 24 jeunes filles, vêtues de blanc, une écharpe bleue sur l'épaule droite et des roses dans les cheveux. Chacune portait une Bible et un livre de Mormon. Pas tout à fait, mais presque aussi étonnant que leur choix du thème de patriotisme, venaient ensuite 24 hommes âgés, conduits par le patriarche Isaac Morley. On les appelait les Gris Argentés. Ils avaient tous au moins 60 ans. Chacun portait un bâton peint en rouge avec un ruban blanc au sommet. L'un d'eux portait le drapeau américain. Ces hommes symbolisaient la prêtrise qui était, dès le commencement, avant que le monde fût, et qui avait été rétablie en notre dispensation. Les saints savaient que le Seigneur leur avait dit de se soumettre au roi, au président, au gouverneur et aux magistrats, et de respecter, honorer et défendre la loi. Ce commandement révélé alors est vrai aujourd'hui pour nos membres de tous les pays. Nous devons respecter la loi, être de bons citoyens. Le Seigneur leur a dit, « J'ai établi la constitution de ce pays par la main des sages que j'ai suscités dans ce but même. » Dans un autre verset, le Seigneur leur dit, « C'est pourquoi il n'est pas juste qu'un homme soit asservi à un autre. » Ils étaient donc contre l'esclavage. C'était un point de grande friction avec les colons du Missouri. Et ce jour de fête de 1849, Elder Phineas Richards s'est avancé au nom des 24 messieurs âgés et a lu leur discours de loyauté et de patriotisme. Il a parlé du besoin qu'ils avaient d'enseigner le patriotisme à leurs enfants et d'aimer et d'honorer la liberté. Après avoir brièvement rappelé les périls qu'ils avaient traversés, il a dit, frères et amis, nous qui avons vécu jusqu'à 60 ans, nous avons vu le gouvernement des États-Unis dans sa gloire. Et nous savons que la cruauté outrageuse que nous avons subie venait d'une administration corrompue et dégénérée, mais que les principes purs de notre chère Constitution restent inchangés. Nous avons hérité de l'esprit de liberté et de l'ardeur patriotique de nos pères, et nous devons de même les transmettre intacts à notre postérité. On aurait pu penser que, poussés par la force de la nature humaine, les saints auraient cherché vengeance, mais quelque chose de beaucoup plus fort que la nature humaine dirigeait leurs actions. L'apôtre Paul a expliqué à Timothée, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous avons la pensée de Christ. Cet Esprit faisait de ses premiers membres de l'Église des disciples du Christ. » Si vous comprenez un peuple si patient, si tolérant, si prompt à pardonner, si chrétien après tout ce qu'il a subi, vous avez découvert ce qu'est un saint des derniers jours. Au lieu d'être consumés par la vengeance, ils étaient ancrés dans la révélation. Leur vie était dirigée par les enseignements que l'on trouve encore aujourd'hui dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Si vous comprenez pourquoi ils ont pu faire cette fête, alors vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous avons foi au Seigneur Jésus-Christ et au principe de l'Évangile. Le Livre de Mormon enseigne, et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Et donc aujourd'hui, en ces jours étrangement difficiles, dans la véritable Église de Jésus-Christ, nous enseignons et nous vivons les principes de l'Évangile. Dans cette fête de 1849, trois choses étaient à la fois symboliques et prophétiques. Premièrement, que les jeunes gens portent la Constitution et la Déclaration d'indépendance. Ensuite, que chaque jeune fille porte la Bible et le Livre de Mormon. Et finalement, que les hommes âgés, les gris argentés, soient honorés dans le défilé. Après ce défilé, ils ont eu un banquet sur des tables de fortune. Plusieurs centaines de chercheurs d'or et 60 Indiens ont été invités à se joindre à eux. Puis ils sont retournés travailler. Le président Young a dit alors, « Si les gens des États-Unis nous laissent tranquilles pendant 10 ans, nous ne leur demanderons rien. » 8 ans après la fête de 1849, les saints se trouvaient dans le canyon de Little Cottonwood pour fêter un autre 24 juillet. 4 hommes sont arrivés à cheval pour dire qu'une armée d'au moins 2500 soldats était dans les plaines. L'armée des États-Unis, commandée par le colonel Johnston, avait reçu l'ordre du président Buchanan d'écraser une rébellion mormone qui n'existait pas. Les saints ont levé le camp et se sont précipités chez eux pour préparer leur défense. Plutôt que de fuir, cette fois, le président Young a déclaré « Nous n'avons transgressé aucune loi. Nous n'avons pas l'occasion de le faire et nous n'avons pas l'intention de le faire. Mais si un pays vient détruire notre peuple, il n'arrivera pas ici si le Dieu Tout-Puissant m'aide. » Mes arrière-grands-parents ont enterré un enfant au bord de la piste quand ils ont été chassés de Far West à Nauvoo et un autre à Winter Quarters quand ils ont été chassés vers l'ouest. Une autre de mes arrière-grand-mères, alors adolescente, a poussé une charrette à bras le long de la rive sud de la Platte River. Ils chantaient « Dieu nous prépare un brillant avenir, dans l'ouest, au lointain. Notre destin pourra s'y accomplir en dépit du malin. » De l'autre côté de la rivière, ils pouvaient voir le soleil briller sur les baïonnettes des soldats de l'armée. À Saint-Louis, ils ont acheté une épingle pour faire un drapeau, ni les émeutiers, ni l'armée, ne pouvaient détourner les saints de ce qu'ils savaient être vrai. Un accord a été négocié, et la guerre d'Utah, par la suite appelée la bévue de Buchanan, a pris fin. Aujourd'hui, nous sommes guidés par les mêmes révélations par un prophète de Dieu, le prophète Joseph Smith. Quand Joseph Smith, le prophète, est mort, un autre prophète a pris sa place. Cet ordre de succession a continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a 6 mois, la conférence générale d'avril, Thomas S. Monson a été soutenu comme 16e président de l'Église, juste 5 mois avant son 81e anniversaire. Il a succédé à Gordon B. Hinckley, décédé dans sa 98e année. Les grands dirigeants de l'Église auront toujours eu des décennies d'expérience et de préparation. Le président Monson convient idéalement aux difficultés de notre époque. Il est soutenu par 2 conseillers, par le collège des 12 apôtres, tous prophètes, voyants et révélateurs. Ce même Lucifer qui a été chassé de la présence de notre Père est toujours à l'œuvre. Avec les anges qui l'ont suivi, il perturbera l'œuvre du Seigneur et essaiera de la détruire. Mais nous tiendrons ferme. Nous devons nous ancrer, en tant que famille et en tant qu'Église, à ses principes et à ses ordonnances. Nous devons envisager l'avenir avec foi, quelles que soient les épreuves qui nous attendent, et elles seront nombreuses. Nous devons rester fidèles. Je témoigne que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ vivent. Que Thomas S. Monson fut appelé de Dieu par prophétie. Le standard de vérité a été érigé. Aucune main ne peut arrêter cette œuvre. Aujourd'hui, le soleil ne se couche jamais sur une congrégation de saints des derniers jours. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
My beloved brethren and sisters,
mes chers frères et sœurs, je vous suis profondément reconnaissant à chacun de vous. Nous sommes tous très reconnaissants d'avoir l'Évangile de Jésus-Christ. Dans ce monde plein de souffrances, nous sommes véritablement reconnaissants du grand plan du bonheur conçu par Dieu. Son plan déclare que l'homme et la femme sont pour avoir la joie, que la joie découle du choix de vivre conformément au plan éternel de Dieu. L'importance du choix peut être illustrée par un concept simple qui m'est venu à l'esprit un jour où que je faisais des courses dans un grand magasin. J'appelle cela les modes d'achat. Comme les achats font partie de la vie quotidienne, cela vous sera peut-être familier. Les acheteurs avisés étudient attentivement les différentes options afin de faire un choix. Ils recherchent principalement la qualité et la longévité des produits. Ils veulent ce qu'il y a de mieux. Par contre, d'autres acheteurs cherchent les bonnes affaires et d'autres encore achètent sans réfléchir, pour se rendre compte ensuite à leur grande déception que l'article qu'ils ont choisi n'a pas bien tenu. Et malheureusement, il y a les rares individus qui mettent leur intégrité de côté et volent ce qu'ils désirent. C'est ce qu'on appelle le vol à l'étalage. Les modes d'achat peuvent être appliqués au mariage. Des gens qui s'aiment peuvent choisir un mariage de grande qualité ou un mariage de moins bonne qualité qui ne durera pas. Ou bien ils peuvent ne choisir rien et voler impunément ce qu'ils désirent, faisant du vol à l'étalage matrimonial. Le mariage est un sujet débattu partout dans le monde où il existe divers arrangements pour la vie conjugale. Mon objectif en parlant de ce sujet est de déclarer, en tant qu'apôtre du Seigneur, que le mariage entre l'homme et la femme est sacré, qu'il est ordonné de Dieu. J'affirme aussi La vertu du mariage au temple, c'est le mariage de la meilleure qualité et de la plus grande longévité que notre Créateur puisse proposer à ses enfants. Alors que le salut est une affaire individuelle, l'exaltation, elle, est une affaire familiale. Seules les personnes mariées au temple et dont le mariage est scellé par le Saint-Esprit de promesse continueront de vivre comme conjoints après la mort et recevront le plus haut degré de gloire, de la gloire céleste. L'exaltation, c'est pour cette raison que le mariage au temple est aussi appelé mariage céleste. Dans la gloire céleste, il y a trois niveaux. Pour obtenir le plus haut, le mari et la femme doivent être scellés pour le temps et pour toute l'éternité et doivent respecter les alliances contractées dans un saint temple. La plus noble aspiration du cœur humain est d'avoir un mariage qui peut perdurer après la mort. La fidélité dans un mariage au temple permet de l'obtenir. Elle permet aux membres de la famille de vivre ensemble éternellement. Cet objectif est glorieux. Toutes les activités de l'Église, les avancements, les collèges et les classes sont des moyens d'atteindre l'objectif de l'exaltation de la famille. Pour qu'il soit possible d'atteindre cet objectif, notre Père Céleste a rétabli les clés de la prêtrise dans notre dispensation afin que les ordonnances essentielles de son plan puissent être accomplies par la bonne autorité. Des messagers célestes, dont Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean, Moïse, Élias et Élie, ont participé à ce rétablissement. La connaissance de cette vérité révélée se répand sur toute la terre. Nous, prophètes et apôtres du Seigneur, proclamons à nouveau au monde que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Nous proclamons aussi que tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. Dans la condition prémortelle, les fils et filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils acceptèrent son plan par lequel ses enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Le magnifique plan du bonheur de notre Père Céleste permet aux relations familiales de perdurer au-delà de la mort. Les ordonnances et les alliances sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples permettent aux personnes de retourner en la présence de Dieu et aux familles d'être unies éternellement. Cette déclaration sur la famille nous aide à comprendre que le mariage céleste apporte plus de possibilités de bonheur que toute autre relation. La terre a été créée et l'Église a été rétablie pour que des familles puissent être fondées, scellées et exaltées éternellement. Une écriture déclare, il est conforme à la loi qu'un homme et une femme et les deux deviendront une seule chair, et tout cela afin que la terre réponde au but de sa création. Une autre affirme, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Le mariage n'est donc pas seulement un principe de l'Évangile qui permet l'exaltation. C'est aussi un commandement divin. Notre Père Céleste a déclaré, « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » L'expiation de son Fils bien-aimé permet la réalisation de ces deux objectifs. Grâce à l'expiation, l'immortalité ou la résurrection des morts est devenue une réalité pour tous. Et grâce à l'expiation, la vie éternelle, qui est de vivre éternellement en présence de Dieu, le plus grand de tous les dons de Dieu, est devenu possible. Pour obtenir la vie éternelle, nous devons faire une alliance éternelle avec notre Père céleste. Cela signifie que le mariage au temple ne concerne pas seulement le mari et la femme, c'est aussi un partenariat avec Dieu. La déclaration sur la famille nous rappelle aussi que le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir. Les enfants nés de cette union sont un héritage de l'Éternel. Quand une famille est scellée au temple, elle peut devenir aussi éternelle que le royaume de Dieu lui-même. Cette récompense nécessite plus qu'un souhait. J'ai lu un jour dans la notice nécrologique d'un journal l'espoir que la personne venant de décéder avait retrouvé son conjoint décédé auparavant, alors qu'en fait, ils n'avaient pas choisi l'option de l'éternité. Ils avaient opté pour un mariage qui n'était valable que tant qu'ils seraient tous les deux en vie. Notre Père Céleste leur avait donné un don divin, mais ils l'avaient refusé, et en rejetant ce don, ils avaient rejeté le donateur de ce don. Un passage fort des Écritures fait clairement la distinction entre un souhait et une vérité éternelle. Tout contrat, alliance, obligation, serment, vœux ou attentes qui ne se font pas et ne sont pas contractés et scellés par le Saint-Esprit de promesse de la main de celui qui est oint à la fois pour le temps et pour toute l'éternité n'ont aucune validité, vertu ou force dans et après la résurrection d'entre les morts. Car tous les contrats qui ne sont pas faits dans ce sens prennent fin quand les hommes sont morts. Ces vérités sont absolues. Les membres de notre Église invitent tout le monde à les apprendre et à se qualifier pour la vie éternelle. Nous invitons tout le monde à acquérir la foi en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, à se repentir, à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir les bénédictions du Temple, à contracter et à respecter des alliances sacrées et à persévérer jusqu'à la fin. Par la miséricorde de Dieu, son grand plan du bonheur et les bénédictions éternelles peuvent être portées aux gens qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile dans la condition mortelle. Les ordonnances du temple peuvent être accomplies par procuration pour eux. Mais qu'en est-il des nombreux membres d'âge mûr de l'Église qui ne sont pas mariés? Sans que ça soit leur faute, ils affrontent les épreuves d'une vie solitaire. Souvenons-nous tous qu'à la manière et au temps du Seigneur, aucune bénédiction ne sera refusée à ses saints fidèles. Le Seigneur jugera et récompensera chacun selon les désirs de son cœur, autant que par ses œuvres. Il est vrai aussi que des incompréhensions dans la condition mortelle peuvent semer le trouble dans un mariage. En fait, le mariage commence avec deux handicaps de conception. Il concerne deux personnes imparfaites. Elles ne peuvent trouver le bonheur qu'en faisant des efforts sincères. Tout comme un orchestre ne joue harmonieusement que lorsque ses musiciens font un effort concerté. L'harmonie dans le mariage nécessite lui aussi un effort concerté. Cet effort ne réussira que si chaque conjoint réduit ses exigences personnelles et accroît ses gestes d'amour altruiste. Le président Monson a dit, pour trouver le vrai bonheur, nous devons le rechercher en dehors de nous-mêmes. Personne n'a appris la signification de la vie tant qu'il n'a pas renoncé à son ego pour servir son prochain. Servir son prochain tient du devoir dont l'accomplissement apporte la véritable joie. L'harmonie n'est atteinte dans le mariage que lorsqu'on estime le bien-être de son conjoint comme l'une des principales priorités. Quand cela se produit réellement, le mariage céleste devient une réalité, apportant beaucoup de joie dans cette vie et pour la vie à venir. Le plan du bonheur conçu par Dieu nous permet de choisir par nous-mêmes. Tout comme les modes d'achat, nous pouvons choisir le mariage céleste ou une possibilité moindre. Certaines options maritales sont bon marché, certaines sont coûteuses et certaines sont astucieusement élaborées par l'adversaire. Méfiez-vous de ces options. Elles apportent toujours le malheur. Le meilleur choix est le mariage céleste. Heureusement, si un choix moindre a déjà été fait, il est possible de l'améliorer au niveau du meilleur choix. Cela nécessite un grand changement de cœur et une amélioration personnelle permanente. Les bénédictions qui en découlent valent tous les efforts. Les bénédictions du mariage au temple sont presque au-delà de notre compréhension mortelle. Ce mariage continuera de progresser dans le royaume céleste, où nous pourrons être rendus parfaits. Comme Jésus a finalement reçu la plénitude de la gloire du Père, de même, nous pouvons aller au Père et recevoir sa plénitude en temps voulu. Le mariage céleste est le pivot de la préparation à la vie éternelle. Il est requis que l'on soit marié à la bonne personne, au bon endroit, par la bonne autorité, et que l'on obéisse fidèlement à cette alliance sacrée. Alors, on peut être assuré de l'exaltation dans le royaume céleste de Dieu. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Récemment, Sœur Oswald et moi avons décidé d'apprendre à nos petites filles jumelles de 5 ans à sauter à la corde. Le saut à la corde est un jeu d'enfant qui consiste à sauter par-dessus une corde qui passe au-dessus de la tête, puis sous les pieds. Après quelques instructions simples, les deux fillettes ont essayé. Elles ont échoué à plusieurs reprises. Comme nous étions sur le point de laisser tomber, les deux filles des voisins, qui sont plus âgées, sont arrivées et nous ont demandé leur aide. Ces deux fillettes, elles savent très bien sauter à la corde. Elles ont pu montrer à la petite fille comment le faire. Pendant qu'elles sautaient, j'ai remarqué qu'elles chantaient une chanson qui les aidait à garder le même rythme que le balancement de la corde. Une fois que nos petites filles ont compris le principe du saut à la corde et qu'on leur a montré comment le faire, le reste de la leçon a été simple. Avec un peu d'entraînement, les jumelles étaient bien parties pour maîtriser les rudiments du saut à la corde. Pendant la leçon de saut à la corde, une autre de nos petites filles, qui n'a que 3 ans, était assise sur la pelouse et observait en silence. Lorsque quelqu'un lui a demandé si elle voulait essayer, elle a acquiescé, s'est avancée et s'est placée à côté de la corde. Nous avons fait tourner la corde et à notre grande surprise, elle s'est mise à sauter comme sa sœur l'avait fait. Elle a sauté une fois, puis deux, puis encore et encore, en répétant tout haut la même chanson que les enfants plus âgés avaient chantée. Nos 3 petites filles avaient observé qu'il y a une technique pour sauter à la corde. C'était quelque chose de simple qu'elle pouvait toutes faire après avoir appris quelques principes de base et après avoir vu comment on faisait. C'est la même chose avec l'enseignement de l'Évangile. Lorsque nous apprenons quelques principes fondamentaux d'enseignement et qu'on nous montre comment le faire, nous pouvons tous le faire. Boyk et Packer nous rappellent souvent que nous tous, dirigeants, instructeurs, missionnaires et parents, avons reçu du Seigneur la tâche à vie d'enseigner et d'apprendre la doctrine de l'Évangile telle qu'elle nous a été révélée. Comme le dit simplement L. Tom Perry, pour tous les appels dans l'Église, il faut être un instructeur efficace. Puisque tout le monde est un instructeur et que l'enseignement est au centre de toutes les activités de l'Église, nous avons tous la responsabilité sacrée d'apprendre certains principes de base de l'enseignement. Il existe de nombreux principes d'enseignement et d'apprentissage, et il ne nous suffit pas de les lire. En premier lieu, nous devons comprendre ces principes de base. Et en second lieu, il faut qu'on nous montre comment les bons instructeurs les utilisent. Nous pouvons le faire en observant les instructeurs capables de notre paroisse ou de notre branche. Et en relisant avec attention la section de la Réunion mondiale de formation des dirigeants, dont le thème est « Enseignement et apprentissage » et que l'on peut trouver sur le site Internet de l'Église ou dans le magazine de l'Église. Les principes de base qui s'appliquent à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Évangile sont énoncés dans les Écritures. Ils sont également développés dans un excellent manuel d'enseignement, trop souvent négligé, dont le titre est « L'enseignement, pas plus grand appel ». Lorsque nous recherchons le modèle de l'instructeur idéal, capable de nous montrer comment enseigner l'Évangile, nous sommes inévitablement amenés à penser à Jésus de Nazareth. Ses disciples l'appelaient Rabouni, ce qui signifie maître ou instructeur. Il était et est le maître instructeur. Jésus était différent des autres instructeurs de son époque en ce qu'il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, car Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, car Dieu était avec lui. Donc il détenait cette autorité de son Père Céleste. Suivant ce processus, Jésus était formé par son Père Céleste, comme le note Jean. Jésus a dit, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Dans toutes les Écritures, nous pouvons trouver d'autres exemples d'instructeurs de l'Évangile efficaces qui ont changé la vie et sauvé l'âme de ceux qu'ils instruisaient. Dans le livre de Mormon, par exemple, Néphi, Alma et les fils de Mosia viennent immédiatement à l'esprit. Remarquez la préparation personnelle des fils de Mosia avant d'aller prêcher l'Évangile. Ils étaient devenus forts dans la connaissance de l'Évangile, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence. Ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas là tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne. C'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation. Et lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient avec une puissance et une autorité venant de Dieu. Moroni était un autre instructeur de l'Évangile puissant, qui était choisi pour être un messager envoyé de la présence de Dieu, pour instruire et diriger le prophète Joseph Smith. Joseph ne nous a donné qu'une brève description de ce que Moroni lui a dit lorsqu'il l'a instruit. La première fois que Moroni lui est apparu, Joseph était un adolescent de 17 ans, peu instruit. Joseph se décrit lui-même comme un garçon obscur, sans importance pour le monde. Et un ami a dit plus tard de lui qu'il était sans instruction et ignorant. Entre les mains d'un instructeur patient et attentif comme Moroni, ainsi que d'autres messagers envoyés des cieux qui l'ont instruit, ce jeune homme allait devenir la figure centrale que le Seigneur a appelée
une œuvre merveilleuse et un prodige. Quels sont les principes d'enseignement et d'apprentissage que nous pouvons remarquer en observant la façon dont Moroni a instruit Joseph Smith? Nous pourrions en étudier un certain nombre qui sont importants. Mais concentrons-nous sur trois principes de base essentiels à un bon enseignement. Principe numéro 1, manifestez de l'amour à ceux que vous instruisez et les appelez par leur nom. Joseph Smith raconte que lorsque l'ange Moroni lui est apparu, il a d'abord été effrayé, mais la crainte l'a bientôt quitté. Qu'a fait l'ange Moroni pour faire disparaître cette crainte? Joseph dit, il m'appela par mon nom. Les instructeurs qui aiment leurs étudiants et les appellent par leur nom suivent un modèle divin. Récemment, pendant une réunion avec Thomas S. Monson, j'ai remarqué qu'il nous accueillait chacun par notre nom. Il nous a parlé de Lucy Gertsch, son instructrice de l'école du dimanche, lorsqu'il était enfant, faisant la réflexion qu'elle connaissait le nom de tous les élèves de sa classe. Frère Monson a dit à son propos, elle téléphonait tous les dimanches à ceux qui avaient manqué la classe ou qui ne venaient pas du tout. Nous savions qu'elle se souciait de nous. Aucun d'entre nous ne l'a oublié. Elle n'a oublié les leçons qu'elle nous a données. Principe numéro 2, enseigner d'après les Écritures. Un autre principe d'enseignement appliqué par Moroni est qu'il connaissait les Écritures et basait son enseignement sur elles. Joseph raconte que dans leur première rencontre, Moroni a commencé à citer des prophéties dans ses testaments. Il cita beaucoup d'autres passages d'Écriture et donna beaucoup d'explications. Grâce aux nombreuses Écritures citées par Moroni, Joseph a appris quel serait son rôle dans l'apparition du livre de Mormon et le rétablissement du véritable Évangile sur Terre. Principe numéro 3, inviter à la méditation sur les vérités de l'Évangile. Un troisième principe, suivi par Moroni pour instruire Joseph Smith, a été de l'amener à méditer sur ce qu'il avait reçu. Joseph dit qu'après la troisième visite de Moroni, celui-ci l'a quitté, le laissant de nouveau réfléchir sur ce qui venait de lui arriver. Les bons instructeurs ont à cœur de suivre le modèle du Christ ressuscité parmi les néphites. Lorsqu'il dit à la multitude, « Rentrez chez vous et méditez sur les choses que j'ai dites, afin de pouvoir comprendre. » Néphi nous rappelle que la méditation ne se fait pas seulement avec notre esprit, mais aussi avec notre cœur. Il a dit, « Mon cœur médite continuellement sur les choses que j'ai vues et entendues. » Le fait de méditer sur les Écritures et sur les choses que nous avons vues et entendues permet à la révélation personnelle de se produire dans notre vie. Je témoigne qu'enseigner l'Évangile est un appel sacré. Lorsque vous aimez vos élèves et les appelez par leur nom, lorsque vous ouvrez les Écritures pour enseigner avec elles, lorsque vous encouragez vos élèves à méditer sur la vérité de l'Évangile établi, à les mettre en pratique, alors votre influence pour le bien sera magnifiée et la vie de vos élèves sera plus abondamment bénie. En ce jour glorieux, ils vous diront, comme il était dit de Jésus de Nazareth, « Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. » Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Thank you, brethren.
Merci, mes frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter. Quel fondement ferme. Après ce chant, Eduardo Gavret et Carlos A. Godoy, des 70, nous adresseront la parole. Après leur discours, nous entendrons Quentin L. Cook, du Collège des 12 apôtres.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Vous assistez à la cinquième session de la 178e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Il fait très froid en hiver dans ma ville natale de Minas en Uruguay. À la tombée de la nuit, ma mère mettait des bûches dans l'âtre pour que la salle à manger reste chaude. Et un par un, mes parents, mes sœurs et moi, nous nous rassemblions une fois nos tâches quotidiennes achevées. Grâce à la chaleur de l'âtre, et à la présence de chaque membre de la famille, cette pièce confortable a fait naître en moi des sentiments que je chérirai toujours. Lorsque ma femme et moi avons fondé notre propre famille, où que nous habitions, nous nous sommes souvent rassemblés, que ce soit autour d'un âtre ou tout simplement dans la chaleur que nous ressentons toujours lorsque nous sommes avec nos enfants. Quel sentiment merveilleux! Quel endroit merveilleux que notre maison, notre foyer, notre refuge! Au cours des années, notre famille a vécu dans différents pays. Et dans chacun d'entre eux, nous avons pu retrouver au sein de l'Église le même sentiment de chaleur chez les membres des paroisses dont nous faisions partie. Chaque membre de l'Église devrait avoir l'occasion de ressentir ces sentiments agréables. Et il pourrait les ressentir grâce à nos efforts pour ramener les personnes à l'assiduité, aux réunions, et pour accomplir l'œuvre missionnaire. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est produit dans certains pieux et districts du Pérou. Et pour ce faire, je vais mentionner quelques noms de famille. La famille Causo, la famille Banda, la famille Vargas Et la liste continue et contient plus de 1700 noms de membres qui sont revenus à la maison. Ce sont des membres des différents pieux, districts, paroisses et branches de tout le Pérou qui ont été invités par les présidents de pieux, les évêques, les dirigeants de prêtrise et des organisations auxiliaires à rentrer à la maison. Ils ont accepté l'invitation lancée par des dirigeants de la prêtrise, les missionnaires à plein temps et par d'autres membres qui ont pris la responsabilité de les aider à revenir à l'Église et à venir au Christ. Nous disons à chacun d'eux, bienvenue à la maison. Qu'est-ce qui a permis à ces personnes de revenir à la maison? Ce sont les efforts conjugués de 14 pieux et de 4 districts dans une mission qui ont travaillé pendant un an pour obtenir le retour de toutes ces personnes en les ramenant à l'assiduité aux réunions et par les ordonnances du baptême et de la confirmation. Ces efforts ont été inspirés par les paroles du Sauveur. M'aimes-tu ? Paix mes brebis. Et par les enseignements du président Monson qui a dit, au cours des années, nous avons lancé des appels aux non-pratiquants, à ceux qui ont été offensés, à ceux qui critiquent, à ceux qui transgressent, pour qu'ils reviennent. Revenez et faites-vous un festin à la table du Seigneur et goûtez de nouveau aux fruits délicieux et satisfaisants de la communion avec les saints. Alma, qui éprouvait grande souffrance pour l'âme de ses frères, a adressé une prière au Seigneur en disant, « Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. » Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse, et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi, donne-nous, ô Seigneur, du pouvoir et de la sagesse, afin que nous te ramenions ceux-ci qui sont nos frères. Angel Alarcón, président du pieu de Puente Piedra, à Lima, au Pérou, m'a fait part de l'expérience suivante. Tous les samedis, les missionnaires, un évêque, quelques dirigeants des organisations auxiliaires et moi-même rendons visite à des membres non pratiquants, à des non-membres et à des convertis récents, de 8h30 du matin à midi. À ce moment de l'histoire, les paroles de ce cantique me sont venues à l'esprit. Ô berger, elles sont chères, les brebis ont erré, dans les prairies amères ou dans les champs pierrés. Frère, sa voix nous appelle tendrement. Il nous conduit pour lui chercher avec zèle les égarés d'aujourd'hui. Frère Vargas, qui habite dans une zone difficile d'accès, a reçu un appel téléphonique. C'était le président de pieux, frère Alarcón, qui appelait de son téléphone portable pour lui annoncer son arrivée. Frère Vargas a répondu, « Je suis surpris. C'est très difficile d'arriver jusque chez moi. » La réponse a été, « Eh bien, je suis devant chez vous et je souhaiterais vous parler. » Nous avons besoin de vous et nous vous invitons à venir aux réunions de l'Église demain. Cet homme, qui n'allait plus à l'Église depuis de nombreuses années, a répondu, « J'y serai ». Depuis, il a pris le chemin du retour. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Dans la mesure où vous avez fait cela, l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a quelques semaines, pendant les réunions du dimanche, j'ai pu rencontrer un frère qui assistait aux réunions pour la première fois depuis de nombreuses années. Il était accompagné de sa femme, qui n'est pas membre de l'Église. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait décidé à revenir, il a répondu, « Mon ami Fernando et ce brave évêque m'ont invité à revenir. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré l'Église il y a de nombreuses années. Et il y a toujours une petite flamme qui brûle dans mon cœur. Elle ne brûle peut-être pas très fort, mais elle est là. J'ai conclu. Eh bien, nous qui sommes vos frères, nous allons souffler sur cette flamme ensemble pour qu'elle continue à brûler. Puis nous nous sommes pris dans les bras de l'un de l'autre. L'intérêt, l'attention et le souci que nous avons pour nos frères sont une manifestation profonde de l'amour de notre Père Céleste. En fait, nous démontrons notre amour pour Dieu lorsque nous servons en nous concentrant sur le bien-être de notre prochain. C'est ce qu'a enseigné le roi Benjamin. Voici, je vous dis ces choses afin que vous appreniez la sagesse, afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Quelle immense influence nous pouvons avoir sur la vie de tant de familles non pratiquantes et sur la vie de ceux qui ne sont pas membres de l'Église quand nous acceptons l'invitation du Sauveur à paître ses brebis et à aider tout le monde à aller au Christ. Ces expériences ne représentent qu'une partie de ce que des milliers de frères font dans l'ombre, à accepter l'invitation du Seigneur à paître ses brebis. Souvenons-nous que l'amour et le service sont des jumeaux qui recherchent la compagnie l'un de l'autre. Oh, si chacun de nous pouvait accepter, comme preuve magnifique de son amour pour son Père Céleste, la responsabilité qu'il a en tant que membre de l'Église de rechercher ceux qui ne sont pas ici parmi nous. Si par ce service aimant, nous pouvions ramener ne serait-ce qu'une seule âme à l'Église, et si cela devenait un but dans notre vie, quelle joie nous aurions avec ceux que nous aiderons à revenir au Christ. Il nous appelle anxieusement. Est-ce que vous ne rechercherez pas mes brebis perdues? Je témoigne que nous sommes fils et filles de notre Père Céleste, qui nous aime et qui nous connaît chacun par notre nom. Je témoigne de l'amour de notre Père et du Sauveur. Il nous a aimés en premier et nous a donné son Fils pour que, grâce à lui, nous puissions revenir à la maison. J'ai de l'amour pour lui, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître, mon Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a quelques années, alors que j'étais 70 d'interrégion au Brésil, ma famille et moi étions en vacances dans la belle ville de Florianópolis. Le dimanche, comme d'habitude, nous sommes allés à l'église la plus proche que nous avons pu trouver. Ma femme, notre fille aînée et moi,
sommes allés à une classe d'école du dimanche dont le sujet d'étude était notre témoignage personnel de l'Évangile. À un moment de la leçon, l'instructrice a demandé aux membres de la classe s'ils désiraient faire part d'une expérience puissante ou spirituelle qu'ils avaient eue pendant qu'ils acquéraient leur témoignage de l'Église. Tandis que certains frères et sœurs racontaient leur histoire, j'ai mentalement passé en revue mes propres expériences de convertis, à la recherche de ce que je pourrais leur dire. Je ne pouvais rien trouver de très remarquable dans mon processus d'acquisition d'un témoignage. Pendant que je pensais et que j'écoutais les expériences des autres personnes, je me suis rendu compte que l'instructrice s'attendait à ce que je participe. Elle écoutait les autres membres. Elle m'a fait savoir qu'elle attendait que je parle de ma grande expérience. Après tout, j'étais un 70 d'interrégion et je devais avoir quelque chose d'impressionnant à dire. Sentant que le temps passait et qu'elle attendait que j'intervienne, j'ai encore essayé de trouver quelque chose qui entrerait dans cette catégorie d'événements puissants. Mais à la grande déception de l'instructrice, je n'ai pas été capable de penser à quoi que ce soit. Malgré tout mon désir de l'aider, je n'ai pas pu répondre à son attente. Heureusement, c'était un dimanche de jeûne, et pendant la réunion de Sainte-Cène, j'ai saisi l'occasion d'exprimer mon témoignage à l'assistance. Et tout spécialement à cette sœur et à sa classe d'école du dimanche. Ce n'était pas une expérience remarquable, mais un témoignage sincère des vérités de l'Évangile rétabli. Parfois, nous pensons que pour avoir un témoignage de l'Église, nous avons besoin d'une expérience forte ou d'un événement unique qui effacerait tous nos doutes, confirmant que nous avons reçu une réponse ou une confirmation. Boyd K. Packer a enseigné, je cite, « La voix de l'Esprit est décrite dans les Écritures comme n'étant ni forte ni dure. Ce n'est pas une voix de tonnerre, ni la voix de grand bruit tumultueux, mais c'est une voix douce, d'une douceur parfaite, comme si cela était un chuchotement, et elle peut percer jusqu'à l'âme même et faire brûler le cœur. Rappelez-vous, Élie a constaté que la voix du Seigneur n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais que c'était un murmure doux et léger. » Fin de citation. Boyd K. Packer continue. L'Esprit n'attire pas notre attention en criant, ni en nous secouant d'une main brutale. Il préfère murmurer. C'est une caresse si douce que, si nous sommes préoccupés, nous risquons de ne pas la sentir du tout. Parfois, l'Esprit insiste avec juste assez de fermeté pour que nous fassions attention. Et la plupart du temps, si nous ne prêtons pas attention à ce doux sentiment, l'Esprit se retire et attend que nous venions chercher, écouter et dire à notre manière, comme Samuel jadis, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Fin de citation. Les grands événements ne sont pas une garantie que notre témoignage sera fort. Laman et Lemuel en sont de bons exemples. Des anges leur sont apparus. Et même alors, presque dans la minute suivante, ils contestaient la volonté du Seigneur. De grands dirigeants de ces derniers jours peuvent aussi nous enseigner ce principe. Ils ont été instruits d'en haut, dans les premiers temps du rétablissement. Et cependant, ils n'ont pas été suffisamment forts pour persévérer jusqu'à la fin. Ces expériences nous montrent que recevoir le témoignage de la petite voix peut parfois avoir un impact plus fort sur notre témoignage que la visite d'un ange.
Quand j'étais jeune et que je vivais à Porto Alegre, au Brésil, deux sœurs missionnaires m'ont enseigné l'Évangile. Je me souviens d'avoir cherché une réponse à mes prières, qui soit grande et incontestable. Cela n'est jamais arrivé. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas acquis une certitude suffisante pour me joindre à l'Église rétablie. Alma enseigne le processus d'alimentation du témoignage. Mais voici, si vous voulez vous éveiller et donner de l'essor à vos facultés, jusqu'à faire l'expérience de mes paroles, et faire preuve d'un tout petit peu de foi, oui, même si vous ne pouvez faire plus que croire, laissez, et je crois que c'était mon cas, quand j'étais ami de l'Église, laissez ce désir agir en vous, jusqu'à ce que vous croyez de manière à pouvoir faire place à une partie de mes paroles. Depuis cette époque, comme ami de l'Église et plus tard missionnaire, puis comme père et dirigeant, toutes ces choses conjuguées ont constitué un ensemble d'expériences et de sentiments, la plupart du temps ténus, qui ne laissent aucun doute que c'est là une bonne semence. Alma poursuit son enseignement, son témoignage. Maintenant, nous allons comparer la parole à une semence. Or, si vous faites de la place pour qu'une semence puisse être plantée dans votre cœur, voici, si c'est une vraie semence ou une bonne semence, si vous ne la chassez pas par votre incrédulité en résistant à l'Esprit du Seigneur, voici, elle commencera à gonfler dans votre sein. Et lorsque vous sentirez ces mouvements de gonflement, vous commencerez à dire en vous-même, il faut nécessairement que ce soit une bonne semence, ou que la parole soit bonne. Oui, elle commence à m'éclairer l'intelligence. Oui, elle commence à m'être délicieuse. Ainsi donc, un témoignage pour certaines personnes peut venir par l'intermédiaire d'un événement unique, indiscutable. Mais pour d'autres, il peut venir à la suite d'expériences qui ne sont peut-être pas remarquables, mais qui, en se combinant, témoignent d'une façon incontestable que ce que nous avons appris et vécu est vrai. Aujourd'hui, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours depuis de nombreuses années, et je ne peux pas me souvenir de la plupart des expériences qui ont forgé mon témoignage. Cependant, toutes celles-ci ont laissé leur marque et ont contribué à mon témoignage de l'Église rétablie. Aujourd'hui, j'ai l'absolue certitude des vérités de l'Évangile de Jésus-Christ. Pour terminer, je vais exprimer ce témoignage, non seulement pour cette sœur qui donnait le cours à l'école du dimanche, mais aussi pour vous tous. Je sais que notre Père Céleste vit. Je sais qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants. Il écoute nos prières. Je sais que Jésus-Christ est notre Sauveur. Il est mort. Il est ressuscité. Il a expié nos péchés. Son expiation a béni chaque jour de ma vie. Je témoigne que l'Église de Jésus-Christ a été rétablie dans ces derniers jours par Joseph Smith, le prophète. Il était prophète de Dieu. Je sais que nous sommes guidés aujourd'hui par un prophète vivant, Thomas S. Monson. Je sais qu'il est le prophète pour notre époque, comme Moïse, Abraham, Ésaïe l'ont été pour la leur. Le livre de Mormon est la parole de Dieu, au même titre que la Bible. Il est un autre témoignage du Sauveur. Je sais que le pouvoir de la prêtrise a été rétabli, a été une bénédiction pour de nombreux saints partout dans le monde. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
L'hiver dernier,
Ma fille a eu une expérience crispante lorsqu'elle a dû conduire dans une très violente tempête de neige. Cela m'a rappelé une situation semblable dans laquelle je me suis trouvé avec mes deux fils il y a de nombreuses années. Mon plus jeune fils, Joe, avait 3 ans et mon autre fils, Larry, en avait 6. Nous faisions la route en voiture de San Francisco à l'Utah en juin. Il avait fait très beau. Alors que nous commencions notre ascension du col des Donners dans les monts Sierra, nous avons été surpris par une énorme tempête de neige. Aucun des conducteurs n'avait prévu cela. Un semi-remorque devant nous s'était mis en ciseaux et bloqué 2 voies. D'autres camions et voitures avaient quitté l'autoroute. Une voie était encore ouverte et beaucoup de véhicules, y compris le nôtre, essayaient désespérément d'avoir assez d'adhérence pour éviter les autres véhicules. La circulation s'est ensuite complètement arrêtée. Nous n'étions pas préparés pour une tempête de neige en juin. Nous n'avions pas de vêtements chauds et assez peu d'essence. J'ai serré les 2 garçons contre moi pour essayer de nous tenir chauds. Après de nombreuses heures, des véhicules de secours, des chasse-neige et des dépanneuses ont commencé à dégager l'énorme embouteillage. Finalement, une dépanneuse nous a remorqués jusqu'à une station-service de l'autre côté du col. J'ai appelé ma femme, sachant qu'elle serait inquiète puisqu'elle attendait un appel la veille au soir. Elle a demandé si elle pouvait parler aux 2 garçons. Lorsque ça a été son tour, notre fils de 3 ans a dit d'une voix tremblante, « J'espère que tu sais que nous avons eu un moment difficile. » Je pouvais voir qu'en parlant à sa mère et en lui racontant le moment difficile qu'il avait passé, notre fils se sentait réconforté puis rassuré. Nos prières ont le même effet lorsque nous nous adressons à notre Père Céleste. Nous savons qu'il veille sur nous dans les moments où nous en avons besoin. L'incident que je viens de raconter était un incident de voyage difficile, mais il était bref et n'a pas eu de conséquences dans le temps. Par contre, nombre d'épreuves et de difficultés que nous rencontrons dans la vie sont graves et semblent avoir des conséquences durables. Nous en rencontrons tous dans les vicissitudes de la vie. Beaucoup de personnes qui écoutent cette conférence font face en ce moment même à des situations très graves. Comme Joseph, le prophète, l'a demandé, après avoir été faussement accusé et emprisonné pendant des mois à la prison de Liberty, nous avons de dire, « Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?» La réponse du Seigneur est rassurante. Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. L'un des points de doctrine essentiels, éclairé par le rétablissement, est qu'il doit y avoir une opposition en toutes choses pour que la justice s'accomplisse. Cette vie n'est pas toujours facile, et elle n'était pas censée l'être. C'est un temps de mise à l'épreuve et d'évaluation. C'est ce que nous lisons dans Abraham, et nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. Elder Harold B. Lee a enseigné, parfois, les choses qui sont les meilleures pour nous et celles qui apportent des récompenses éternelles semblent maintenant les plus amères. Et les choses interdites sont souvent celles qui semblent les plus désirables. Le roman Le Conte de 2 cités commence avec une phrase souvent citée. C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. Les Écritures disent clairement que chaque génération a sa propre version de la meilleure et de la pire des époques. Nous sommes tous sujets au conflit entre le bien et le mal, et au contraste entre la lumière et les ténèbres, entre l'espoir et le désespoir. Comme Elder Neil Maxwell l'a expliqué, le contraste frappant entre le doux et l'amer est essentiel tout au long de cette brève expérience dans la condition mortelle. Nous savons grâce à notre doctrine, que le bien vaincra le mal et que toutes les personnes qui se repentent et sont sanctifiées recevront la vie éternelle. À peu près à l'époque où Dickens écrivait son roman, les premiers saints étaient en train de s'installer dans les montagnes rocheuses, au prix d'efforts héroïques. En dépit de leur foi commune, les saints avaient eu beaucoup d'épreuves, et ils avaient des attentes très différentes lors de l'évacuation de Nauvoo. Certains envisageaient l'avenir avec optimisme, d'autres avec inquiétude. Deux excellents exemples sont présentés par Ellen Mar Whitney et Bathsheba Smith. Tous deux font part de leurs sentiments dans des récits fascinants. Sœur Whitney décrit comme suit ses expériences au moment de quitter Nauvoo. Je vais mettre tous mes petits rubans, mes cols et mes dentelles dans mes bagages, car nous ne pourrons plus en acheter là où nous allons. Nous allons quitter le monde pour vivre au-delà des montagnes rocheuses, où personne d'autre ne voudra aller. Il n'y aura ni riches ni pauvres parmi nous, et nous n'aurons que les gens honnêtes et vertueux. Les paroles de Sœur Whitney sont empreintes d'un optimisme idéaliste. Les sentiments de Sœur Bathsheba Smith, ce qu'elle a écrit, sont également remplis de foi, mais témoignent d'une certaine appréhension. Elle avait vu les émeutiers se déployer contre les saints du Missouri, et elle était présente à la mort de l'apôtre David W. Patton. Lors de l'évacuation de Nauvoo, elle écrit: mon dernier acte dans cet endroit précieux a été de ranger les chambres, balayer le sol et mettre le balai à sa place habituelle derrière la porte. Ensuite, pleine d'émotion, j'ai délicatement fermé la porte pour faire face à un avenir inconnu. Je lui ai fait face avec foi en Dieu et pas moins d'assurance de l'établissement final dans l'Ouest de l'Évangile et de ces principes vrais et durables que je n'en avais ressenti lors des événements éprouvants du Missouri. Ces deux pionnières de l'Église sont restées fortes dans l'Évangile pendant toute leur vie et ont accompli un service merveilleux dans l'édification de Sion. Mais elles ont fait face à beaucoup d'autres épreuves et difficultés qu'elles ont toutes deux supportées fidèlement. Malgré son optimisme, les trois premiers enfants de Sœur Whitney sont morts à la naissance ou peu après, deux d'entre eux pendant son exode prolongé de Nauvoo au lac Salé. Sœur Whitney nous a légué des écrits qui défendent notre foi, et elle est la mère de l'apôtre Orson F. Whitney. Sœur Smith décrit la pauvreté, les maladies et les privations des saints pendant leur voyage vers l'Ouest. En mars 1847, sa mère décédait, et son deuxième fils John naissait le mois suivant. Le récit qu'elle fait de ce moment est bref. C'était mon dernier enfant, et il n'a vécu que 4 heures. Plus tard dans sa vie, elle a été intendante du temple de Salt Lake City et 4e présidente générale de la Société de secours. Les épreuves que les premiers saints ont traversées nous touchent profondément. Brigham Young les a dépeintes avec une pointe d'humour en février 1856, lorsqu'il a dit « Je voudrais dire quelque chose à propos des temps difficiles. Vous savez que je vous ai dit que si quelqu'un craignait de mourir de faim, il était libre de s'en aller et de se rendre là où se trouve l'abondance. Je ne vois pas le moindre risque de mourir de faim. Car, tant que nous n'aurons pas mangé la dernière mule, depuis le bout de l'oreille jusqu'à l'extrémité de la queue, je ne crains pas de mourir de faim. » Il poursuit: il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas trouver d'emploi en ce moment, mais le printemps va bientôt nous arriver, et nous n'allons pas souffrir davantage qu'il ne faut pour notre bien. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont à leur façon comparables à celles du passé. La récente crise économique cause d'importantes inquiétudes dans le monde entier. Le chômage et les difficultés financières ne sont pas inhabituelles. Beaucoup de gens ont des problèmes de santé physique et mentale. Certains ont des problèmes conjugaux ou des enfants rebelles. Certains ont perdu des êtres chers. La dépendance et des tendances mauvaises ou nuisibles apportent du chagrin. Quelle que soit leur source, les épreuves font souffrir les personnes elles-mêmes et celles qui les aiment. Les Écritures nous indiquent que certaines épreuves sont pour notre bien et conviennent à notre développement personnel. Nous savons aussi que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Et il est également vrai que tous les nuages que nous voyons n'apportent pas la pluie. Quelles que soient nos difficultés, nos épreuves et nos afflictions, la doctrine rassurante de l'expiation accomplie par Jésus-Christ comprend l'enseignement d'Alma, selon lequel le Sauveur prendrait sur lui nos infirmités et secourait son peuple selon ses infirmités. Les Écritures et les prophètes modernes expliquent clairement qu'il y aura des années de vaches maigres et des années d'abondance. Le Seigneur attend de nous que nous soyons prêts pour les nombreuses difficultés à venir. Il déclare, « Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas. » Lors de cette tempête de neige, quand je traversais les Sierras il y a de nombreuses années, le choc que j'ai eu était en partie dû au fait que je n'étais pas préparé à cet événement soudain et inattendu. L'une des grandes bénédictions des Écritures est qu'elles nous mettent en garde contre des difficultés qui sont inattendues, mais qui se produisent souvent. Nous ferions bien de nous y préparer. L'une des façons de se préparer est de respecter les commandements. À maintes reprises dans le Livre de Mormon, le peuple reçoit la promesse qu'il prospérera dans le pays s'il garde les commandements. Cette promesse est souvent accompagnée de l'avertissement que s'il ne garde pas les commandements de Dieu, il sera retranché de sa présence. Le fait d'avoir les bénédictions de l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit, est clairement l'un des éléments essentiels pour prospérer véritablement dans le pays et être préparé. Quelles que soient nos épreuves, avec l'abondance que nous avons aujourd'hui, nous serions ingrats de ne pas apprécier nos bénédictions. Malgré les lourdes épreuves que les pionniers traversaient, le président Brigham Young a parlé de l'importance de la reconnaissance. Il a dit, « Je ne connais pas de péché plus grand, à l'exception du péché impardonnable, que celui de l'ingratitude. Notre principale raison d'être reconnaissant doit être le Sauveur et son expiation. Nous sommes conscients que beaucoup de personnes qui écoutent cette conférence ont des épreuves et des difficultés d'une intensité telle que leur principal sentiment lorsqu'elles prient notre Père Céleste est « J'espère que tu sais que je traverse un moment difficile. » Je vais vous raconter l'histoire vraie d'une sœur, Ellen Yates, de Grantsville, en Utah. Il y a 10 ans, début octobre, elle embrassait son mari, Léon, qui partait travailler à Salt Lake City. C'était la dernière fois qu'elle allait le voir vivant. Il a eu une collision frontale avec un jeune homme de 20 ans qui était en retard pour son premier travail et qui avait essayé de doubler un véhicule plus lent. Cette collision frontale les a tous deux tués sur le coup. Sœur Yates raconte la nouvelle que lui ont apporté deux agents de police de la route compatissant, l'a plongée dans un état de choc et dans un grand chagrin. Elle a écrit « Lorsque j'essayais d'envisager l'avenir, tout n'était que ténèbres et souffrances. » Il s'est avéré que le meilleur ami de son mari était l'évêque de la paroisse du jeune homme. Cet évêque a téléphoné à Sœur Yates et lui a dit que Jolaine Wilmore, la mère du jeune homme, voulait lui parler. Elle raconte, « Je me suis aperçu que j'étais tellement prise par mon chagrin que je n'avais même pas pensé au jeune homme et à sa famille. Soudain, je me suis rendu compte qu'il y avait une mère qui avait autant de peine que moi, sinon plus. Je l'ai rapidement autorisée à venir me voir. À leur arrivée, frères et sœurs Wilmore ont exprimé leur grand chagrin que leur fils était responsable de la mort de Léon et lui ont offert une image du Sauveur tenant une petite fille dans les bras. Elle explique, « Lorsque les temps sont trop difficiles, je regarde cette image et je me rappelle que le Christ me connaît personnellement. Il connaît ma solitude et mes épreuves. L'une des Écritures qui la réconforte est « C'est pourquoi prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés. » Tous les ans, en octobre, Sœur Yates et Sœur Wilmore, qui sont toutes les deux ici ensemble au centre de conférence aujourd'hui, vont au temple ensemble et rendent grâce au Christ de son expiation, du plan du salut, de la famille éternelle et des alliances qui unissent mari, femme et enfant des deux côtés du voile. Sœur Yates conclut, du fait de cette épreuve, j'ai ressenti l'amour de mon Père céleste et de mon Sauveur plus abondamment que jamais auparavant. Elle témoigne, aucun chagrin, aucune souffrance, aucune maladie ne dépasse le pouvoir qu'ont l'expiation et l'amour du Christ de guérir. Quel merveilleux exemple d'amour et de pardon de la part de ces deux sœurs. Cela a permis à l'expiation de Jésus-Christ de prendre effet dans leur vie. Pensez au Sauveur dans le jardin de Gethsémané pendant qu'il accomplissait l'expiation. Ses souffrances étaient telles qu'il a saigné à chaque pore. Lorsqu'il implorait son Père, il a utilisé le mot « Abba ». On peut l'interpréter comme un cri de détresse d'un fils à son Père. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je témoigne que l'expiation de Jésus-Christ s'applique à toutes les épreuves et à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie. Parfois, quand nous avons envie de dire « J'espère que tu sais que j'ai eu un moment difficile », nous pouvons avoir l'assurance qu'il est là et que nous sommes en sécurité dans ses bras aimants. En août dernier, lors de l'anniversaire de notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, on lui a demandé ce que serait le plus beau cadeau que les membres du monde entier puissent lui faire. Sans hésiter, il a répondu, « Trouvez quelqu'un qui traverse une période difficile et faire quelque chose pour lui. Comme vous, je suis éternellement reconnaissant de Jésus-Christ, le sauveteur de l'humanité. Je témoigne qu'il est le sauveur et le rédempteur du monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. »
Thank you, brethren.
Merci, mes frères. À la fin de cette conférence, nous remercions le chœur du Tabernacle, le chœur de la primaire de Caseville et de Fautail en Utah, et le chœur de la prêtrise du Centre de formation des missionnaires de Provo, ainsi que leurs directeurs et organistes pour la musique belle et inspirante qu'ils ont interprété. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre session de la conférence. Le dernier orateur de cette session sera Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « We ever pray for thee ». Marcus B. Nash, des 70, fera la prière de clôture et cette conférence sera terminée, frère Monson.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, je sais que vous conviendrez avec moi que cette conférence a été une des plus inspirantes. Ces deux derniers jours, nous avons ressenti l'Esprit du Seigneur avec abondance. Notre cœur a été touché, notre témoignage de cette œuvre divine a été fortifié. Je suis sûr que les membres de l'Église de partout se joignent à moi pour exprimer notre reconnaissance envers les frères et sœurs qui se sont adressés à nous. Cela me rappelle les paroles de Moroni que l'on lit dans le livre de Mormon, et leur réunion était dirigée par l'Esprit, par l'Église, selon l'inspiration du Saint-Esprit et par le pouvoir du Saint-Esprit. Car selon que le pouvoir du Saint-Esprit les conduisait soit à prêcher, soit à exhorter, soit à prier, soit à supplier, soit à chanter, ainsi faisait-on. Puissions-nous longtemps nous souvenir de ce que nous avons entendu pendant cette conférence générale. Tous les messages donnés seront publiés dans le numéro du mois prochain de l'Inzine et du Liaona. Je vous exhorte à les étudier et à méditer sur leurs enseignements.
À vos frères qui avaient été relevés lors de cette conférence, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour vos nombreuses années de service dévoué. L'ensemble des membres de l'Église a bénéficié de vos innombrables contributions. Je vous assure que notre Père Céleste est conscient des difficultés que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui. Il aime chacun de nous et il nous bénira si nous nous efforçons de respecter ses commandements et de faire appel à lui par la prière. Nous sommes une Église mondiale, mes frères et sœurs. Les membres de notre Église se trouvent partout dans le monde. Puissions-nous être de bons citoyens du pays dans lequel nous vivons et de bons voisins dans notre collectivité, en nous tournant vers les personnes d'autres confessions comme de la nôtre. Puissions-nous être des hommes et des femmes honnêtes et intègres dans tout ce que nous faisons. Dans le monde entier, il y a des personnes qui ont faim, qui sont sans ressources. Ensemble, nous pouvons soulager la souffrance et subvenir aux besoins des personnes en difficulté. En plus des services que vous vous rendez les uns aux autres, vos dons généreux au fond de l'Église nous permettent de réagir presque immédiatement aux catastrophes qui se produisent partout dans le monde. Nous sommes presque toujours parmi les premiers sur le terrain pour fournir toute aide possible. Merci pour vos dons. Je sais que vous continuerez d'aider autant que vous le pouvez. Beaucoup de gens traversent d'autres difficultés. Certains, particulièrement parmi les jeunes, sont impliqués dans des choses tragiques telles que la drogue, l'immoralité, les bandes et tous les autres graves problèmes qui les accompagnent. De plus, certains se sentent seuls. Par exemple, les veuves et les veufs, qui se languissent de la compagnie et de la sollicitude d'autres personnes. Puissions-nous toujours être conscients des besoins des personnes qui nous entourent et être prêts à les aider et à les aimer. Mes frères et sœurs, comme nous sommes bénis, que les cieux soient ouverts, que l'Église rétablie de Jésus-Christ soit sur la terre aujourd'hui et qu'elle soit fondée sur le roc de la révélation. Nous savons que la révélation continue est la force vitale de l'Évangile de Jésus-Christ. Puissions-nous tous rentrer chez nous en sécurité. Puissions-nous vivre ensemble dans la paix, l'harmonie et l'amour. Puissions-nous nous efforcer chaque jour de suivre l'exemple du Sauveur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous remercie de vos prières pour moi et pour toutes les autorités générales. Nous sommes profondément reconnaissants de chacun de vous. Dans l'une de ces pièces, La tragique histoire du docteur Faust, Christopher Marlowe décrit un personnage, le docteur Faust, qui choisit de désobéir à Dieu et de suivre les voies de Satan. À la fin de sa vie pécheresse, face aux occasions manquées et aux châtiments certains à venir, il se lamente. Il existe une souffrance plus terrible que les flammes de l'enfer, l'exil éternel de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, si l'exil éternel de Dieu est la souffrance la plus atroce, la vie éternelle en la présence de Dieu est notre but suprême. De tout mon cœur et de toute mon âme, je prie pour que nous puissions persévérer dans la quête de cette récompense précieuse. Je vous témoigne que cette œuvre est vraie, que notre Sauveur vit et qu'il guide et dirige son Église ici-bas. Je vous fais mes adieux, mes chers frères et sœurs, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans 6 mois, au nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre Rédempteur. Souvenez-vous de qui nous prions. Souvenez-vous qu'il a dit,
Je suis à la porte et je frappe. Ceux qui entendent ma voix, écoutez sa voix. Vivez afin qu'il puisse frapper à notre porte. Bienvenue à la maison, dans notre cœur, notre Sauveur. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre Rédempteur, que nous servons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven,
Père céleste, nous sommes reconnaissants d'être membres de ton Église. Nous sommes reconnaissants du prophète, de l'influence et de la puissance qu'il manifeste dans notre vie pour nous unir en tant que peuple. Nous prions pour sa santé, pour sa force, pour que tu continues de le guider. Nous te prions aussi pour ses nobles conseillers. Te demandons de les bénir. Nous sommes reconnaissants du Collège des douze apôtres. Nous te supplions de les protéger, de les sauvegarder, de continuer de les inspirer. Nous sommes reconnaissants d'être dans ce monde avec la possibilité de ne pas en faire partie. Nous sommes reconnaissants de la lumière de l'Évangile, de ton Fils, du grand plan du salut et de son sacrifice expiatoire. Nous te demandons à présent, Père, de bien vouloir nous bénir afin que nous puissions vivre conformément à la direction du Saint-Esprit. Nous te demandons d'ouvrir les portes de toutes les nations à la lumière, à l'espoir de ton Évangile, afin qu'il puisse pénétrer dans tous les continents, dans tous les pays. Nous te prions de bénir les dirigeants des nations, de veiller sur eux, afin qu'il y ait de la paix, de la stabilité, afin que ton royaume et ton Église puissent s'y implanter. Nous te demandons de nous bénir lorsque nous allons partir de cette conférence, nous accorder l'unité en tant que peuple, qui puisse s'installer dans notre cœur, afin que nous puissions faire ce qui nous a été demandé de faire, et de vivre conformément à ta volonté, et de recevoir de ta joie et ton bonheur. Nous te exprimons de nouveau notre amour, notre désir de te suivre, d'être meilleur, et de servir nos semblables. Nous exprimons ces aspirations de notre cœur avec la plus profonde reconnaissance, et le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 178th semi-annual.
Vous venez d'assister à la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 20 jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales, les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorité écrite est interdite.